Le jour où on m'a dit...
Salut les auditeurs de Radio G, c'est l'équipe d'Imaginaire jusqu'à 22h sur le 101.5 avec le retour de Sébastien.
Salut, donc je suis de retour pour vous parler donc de livres-jeux, comme par hasard.
Ah oui, tiens.
Et de particulièrement de Destin, et on aura un invité romain, donc surprise, en la personne de Laurent Centreau.
C'est plutôt une surprise là.
Ouais, bah, une surprise pour nos auditeurs, parce que c'était un peu annoncé aussi sur notre page.
Ah bon.
Et donc, il nous fait le plaisir, donc c'est une surprise quand même de pouvoir venir nous parler, puisqu'il y a un emploi du temps assez chargé.
On l'aura au téléphone tout à l'heure, donc, pour parler un peu de ce reboot d'une célèbre série de
Voilà, dont vous êtes le héros. Série qui était parue chez Gallimard et qui a connu vraiment un relifting total pour la sortie, donc, chez Alconost, la maison d'édition, donc, de Laurent Centreau.
Très bien. Et puis, Karine, toi aussi, tu as lu.
Oui, tout à fait. J'ai lu notamment La Monture de Carole Emschwiller, si je prononce bien son nom de famille, aux éditions Argile.
Et puis en deuxième partie d'émission plutôt, on écoutera des extraits de la table ronde que nous avions animée dans le cadre du mois de l'imaginaire. C'était il y a une dizaine de jours à l'université d'Angers, table ronde animée par Manon Tardy. Sur le thème du militantisme dans la littérature de l'imaginaire, avec l'écrivain Camille Le Boulanger et puis l'éditrice des éditions Ibi. On commence en musique tout de suite avec Chopper, qu'on en pourra voir en concert jeudi prochain au Garage. Et on se retrouve après.
Is the
Chopper, donc, que vous pourrez peut-être voir en concert au bar Le Garage jeudi prochain. C'est un mec qui vient de Copenhague et qui fait une espèce de pop industriel, je dirais. Plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne en concert. Allez, Karine.
Donc, avec la monture, l'autrice nous projette dans un monde où les créatures apprivoisées sont pour une fois les humains. En effet, les extraterrestres nommés les Hoots ont transformé les humains en montures, car ils ont des jambes plutôt fragiles malgré qu'ils soient dotés de mains grandes et fortes. Ainsi, les hommes sont nommés les Sam et les femmes les Sioux. Ils sont également divisés en races, les Saitl, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui sont les plus grands et les plus forts, et les Tennessee, qui sont eux les plus rapides. On va suivre Charley, un jeune garçon dont le nom de monture est Smiley. Il est sélectionné pour devenir la monture du futur dirigeant des Hoots, nommé par Charley Petit Maître, car c'est un Seattle. Tous deux sont des enfants au début du roman. On les suit donc dans leurs évolutions face à l'éducation qu'ils ont et les règles que chacun doit respecter pour se conforter à ce que la société attend d'eux. Par la suite, lors d'une attaque qui survient, Charley fait la rencontre de Héron, son père, qu'il connaît sous le nom de monture Bouty. Héron est réfugié dans les montagnes, libre et résiste face à cette société. Cette rencontre va quelque peu chambouler la vie de Charley, qui va s'interroger sur la société dans laquelle il est et nous offrir au fil de la lecture un point de vue qui interroge et fait réfléchir, dont je ne vous détaillerai pas, pour ne pas spoiler. L'autrice met en avant principalement le lien entre Charley et son petit maître, un lien affectif fort, ce qui est à la fois troublant et touchant. On aurait tendance à croire que l'espèce dominée détesterait l'espèce dominante, surtout que cela fait écho à notre propre histoire, mais il n'en est rien, en tout cas pas pour Charley et son petit maître. Cette affection sert au propos de l'autrice, qui aborde avec subtilité la quête de la liberté, l'éducation et les rapports de domination. Ça fait donc réfléchir sur un panel de sujets et ouvre des perspectives où l'écoute, la bienveillance, l'empathie est de mise. Carole Emschwiller est une autrice américaine. Son roman La Monture, publié initialement en 2002, a obtenu le prix Philip K. Dick en 2003. La maison d'édition Argile décide d'en faire la traduction pour la première fois en France en 2021. Je vous invite donc à découvrir ce roman de science-fiction qui touche au roman d'apprentissage et au roman initiatique. Il ne vous laissera pas indemne. L'autrice a une très belle plume, subtile mais bien percutante. Je vous laisse maintenant avec la chanson Andromeda du groupe Anciferum sur Radio G.
Go!
Hello, hello, hello. Bon, c'était pas si calme que ça, cette chanson.
Mais si, c'était doux.
Si tu le dis.
Et c'est un groupe de folk metal finlandais originaire d'Helsinki.
Ensi Ferum, donc je pense que ça se prononce.
Oui, sans doute, c'est possible.
Bon, alors est-ce qu'on entend notre invité? Allô?
Oui, allô, Laurent.
Ah bah quand même.
Ah. Ça va, Laurent?
Très bien, très bien.
Ça y est, on t'a synchronisé, voilà, ça a été un petit peu compliqué.
On a réussi à te récupérer.
D'accord.
Oui, bon, je suis très content de t'avoir. Donc, comme je l'annonçais en début, donc pour l'émission d'Imaginaire, peux-tu te présenter déjà donc à nos auditeurs, s'il te plaît?
Oui, bonjour à tous déjà, enchanté d'être là. Je suis donc Laurent Centraux, je suis le président des éditions Alconost. C'est une maison d'édition associative qu'on a fondée en 2017 avec un petit groupe de passionnés. Et notre but dans cette maison d'édition associative, c'est de publier des jeux de rôle, mais aussi des jeux de rôle, pas des jeux de rôle, ouais. Des jeux de rôle, et publier aussi des livres-jeux, donc ce que Gallimard appelle des livres dont vous êtes le héros. Et notre ligne éditoriale, en fait, c'est de mélanger voilà les grands noms de l'époque, Gallimard, on va dire, qu'on connaît, qu'on a plus ou moins en tête, hein, Dave Morris, Jamie Thompson, Mark Smith, on parlera tout à l'heure, Jonathan Green, etc., des illustrateurs aussi très fameux, Ross Nicholson, avec la fine fleur de la relève francophone, hein, avec des auteurs voilà qui gagnent des concours de manuscrits et qu'on édite ensuite pour le plaisir de nos lecteurs. Après, personnellement, je m'occupe en plus de la présidence, je m'occupe aussi de la mise en page, je fais des relectures, des tests, j'adapte des cartes aussi, je suis un passionné de cartographie. Donc j'adapte les cartes en version originale, je les adapte en français pour les séries anglophones, hein, Fabeland, Destin ou Forge Divine à venir. Je colorie aussi des cartes pour des versions collector et je fais quelques illustrations. J'ai notamment illustré la couverture de Destin numéro 5, L'hiver des hommes. Et j'ai fait la carte aussi de Cyclades.
Ok, et Alconost, donc l'aventure l'a démarré il y a combien de temps de cela?
Et donc c'est en 2017, donc ça va pas encore faire 10 ans, on n'y est pas encore. On a commencé de manière assez confidentielle, vraiment c'était vraiment une association de passionnés, on avait dans l'idée d'éditer une gamme de livres qui était écrite, enfin qui est toujours d'ailleurs écrite par un des membres d'Alconost. Et puis on a découvert aussi la série Fabeland de Dave Morris et Jamie Thompson, d'une énorme qualité. Et donc on a publié deux livres au début, et puis donc c'était en impression à la demande au début. Et en fait, ce qu'on a fait a plu. Les gens ont aimé notre sérieux, notre démarche dans la réédition ou dans l'édition. Dans la réédition des textes anglais ou l'édition de textes francophones. Mmh. Et donc petit à petit, voilà, on a pris un petit peu plus d'importance. On a pu imprimer à plus grande quantité. Et puis maintenant, voilà, on a le plaisir d'être distribué. Et pour nous, c'est super important. Ça veut dire que nos auteurs peuvent voir leurs livres en librairie, et donc ça se vend mieux, c'est plus connu, et donc on est content, comme ça le genre qui est tombé un peu en désuétude reprend un petit peu des couleurs. Alors c'est pas que grâce à nous, évidemment, hein, y a plein d'autres éditeurs qui font cet effort là et c'est chouette de revoir ce genre de nouveau dans les boutiques.
Et là on va parler justement d'un certain titre, Le Peuple Maudit, qui est le destin donc numéro 3, écrit par Mark Smith et qui concourt, je le rappelle à nos auditeurs, donc de Radio G, au prix du livre-jeu 2023, entre autres. Il y a d'autres aussi ouvrages d'Alconost. Et donc, ma première question sur Le Peuple Maudit, et qu'est-ce qui a motivé donc Alconost de revoir en profondeur, et j'insiste là-dessus, en profondeur, le manuscrit de Le Peuple Maudit, ainsi que d'en offrir de nouvelles illustrations par rapport à l'édition originale de Gallimard de 1994?
Alors, c'est pas le point de départ quand même, c'est la publication d'un inédit de Destin. Destin sort dans sa version française en France en 1995-96. Et 1995-1996, c'est un petit peu le déclin, même je dis un petit peu, c'est complètement le déclin des livres-jeux, hein, qui sont un petit peu remplacés par les jeux vidéo. J'ai encore dit un petit peu, c'est complètement par les jeux vidéo. Donc à partir de là, Gallimard cesse complètement la publication d'inédits. Ils vont se contenter de faire des rééditions. Et ils n'ont pu sortir que les tomes 1, 2, 3 et 4 de la série Destin. et le tome 5 et le tome 6 ne verront jamais le jour en français. Et donc il y a L'hiver des hommes, qui est le tome 5, qui n'a jamais été édité. Or, on a découvert une traduction par un de nos auteurs, Romain Baudry, qui était d'une très grande qualité, donc on l'a contacté, on a décidé d'améliorer un petit peu la traduction avec son concours. Et donc on a publié le testant numéro 5, on a commencé par le 5 en fait. Et entre-temps, avant de publier le tome 5, on avait contacté Gallimard pour leur demander si on pouvait réutiliser le titre de la série. Donc ils nous l'ont accordé, puis après on les a recontactés pour voir si on pouvait aussi, tant qu'à faire, rééditer les tomes 1 à 4 pour qu'on ait la collection intégrale chez nous. Sachant qu'il y a des tomes qui sont très rares, comme le Pirate des Sept Mers, le premier tome, il est très dur à trouver maintenant sur le marché de l'occasion. Donc c'est comme ça qu'on est rentré en fait dans cette série-là, et c'est pour ça qu'on a publié le tome 3. Cela dit, publier ce tome 3, pour nous c'était hyper important, parce qu'il y a une sorte d'injustice en fait dans l'histoire éditoriale de ce titre. C'est que il contient plein de bugs, mais vraiment d'énormes bugs qui le rendent injouable. Et donc ça a déçu plein de joueurs des années 90, puis après des joueurs qui sont tombés dessus sur des livres d'occasion, parce qu'il n'est pas jouable, alors que c'est un livre qui peut être formidable. Donc il a été écrit par Mark Smith, qui se partage la série Destin avec Dave Morris. Et Mark Smith est une personne qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de talent dans l'écriture. C'est un très très bon écrivain, un très bon conteur d'histoire aussi, qui crée de nombreux personnages, des PNJ, donc des personnages non-joueurs. Donc c'est très 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 élaboré comme background. Il a tout l'univers qu'il décrit dans Le Peuple Maudit aussi, ça va rejaillir sur d'autres livres comme Le Talisman de la Mort, qui est un défi fantastique, et également sur la collection La Voix du Tigre, qui est une autre série qui a été traduite par Gallimard. Mais ce Mark Smith, qui écrit super bien, n'est pas toujours très doué pour structurer ses livres. Donc il a été aidé par Dave Morris. D'ailleurs, j'ai deux versions originales sous les mains, et on voit justement les corrections qui ont été faites par Dave Morris, qui l'ont rendu un peu plus jouable. Et nous, ce qui nous a motivé, en fait, c'était rendre justice à la création de Mark Smith, en corrigeant justement les défauts de structure, pour rendre honneur à son texte. C'est un texte qui est engagé, bien que ce soit un livre-jeu. Mark Smith avait écrit un tome précédent qui était plutôt sur l'écologie, et dans celui-ci, il veut mettre en avant justement les injustices, l'intolérance qui peut conduire jusqu'à la maltraitance ou carrément les discriminations. Et dans ce livre-là, ça va même au-delà, puisque c'est une sorte de métaphore à l'histoire juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un thème assez lourd qui est traité de manière assez sombre aussi dans le livre. C'est pas du tout un ton qui est trop décalé. C'est abordé avec un côté un peu plus fantasy, mais ça reste assez lourd. Donc pour nous, c'était un livre très original, parce que c'est un thème qu'on n'aborde jamais dans les livres-jeux. Donc voilà, un double objectif. Donc à la fois rendre hommage à l'écriture du texte, puis aussi au thème qui nous semblait assez important. Donc Mark Smith a axé l'histoire sur un peuple qu'il appelle en VO les Judains, Judaïne, dans une prononciation plus anglaise. Et dans la version de Gallimard, ça avait été traduit par les Abrams, et nous on a repris le nom VO qui sonne bien en français aussi, les Judas. On comprend assez l'allusion, voilà, sans que ce soit trop lourd non plus.
Et pourquoi donc avoir choisi volontairement de refaire les illustrations, d'en avoir des nouvelles pour l'édition d'Alcool?
Même chose aussi, il y avait une sorte d'injustice un petit peu dans ce livre. Alors Terry Ox est un très bon illustrateur, il a fait d'ailleurs des superbes illustrations de couverture dans les livres dont vous êtes l'héros. Mais pour le coup, ces illustrations intérieures dans Le Peuple Maudit sont vraiment en dessous de ce qu'il fait habituellement. C'est très sombre. On avait du mal à distinguer vraiment les différents personnages, les différents décors. Ça mettait pas le livre en valeur, puis c'était pas trop dans le ton du livre. Et comme c'est un livre qui se passe dans une cité, on a décidé de faire appel à Olivier Reynaud, qui a beaucoup de talent pour dépeindre les scènes citadines, et notamment tous les différents personnages qu'on peut rencontrer à l'intérieur. Donc on a pensé à cet illustrateur breton qui a illustré notre trilogie Amalron aussi, qui a illustré pas mal aussi de suppléments pour Défis Fantastiques, notamment dans le jeu de rôle Défis Fantastiques. Et voilà, donc c'était pour en fait remettre des illustrations au niveau du texte.
Oui. Et comme tu disais, là, tu citais l'étoile de la destinée qui est un plus écologique que politique, Le peuple maudit. Et ce qui relie les deux ouvrages, c'est la cité Godorno, qui est un peu une sorte de Venise décadente. Et j'ai aussi relevé, bah, comme tu en as parlé au tout début, des analogies donc dans Le peuple maudit avec l'usurpateur d'Irsmin, puisqu'on a quand même à lutter contre un cruel suzerain, bah, comme dans l'usurpateur d'Irsmin, qui fait partie de la Voix du Tigre, c'est le troisième tome, Destin 3, donc un hasard peut-être. Et toi, quelle autre analogie tu vois entre Le peuple maudit et la Voix du Tigre?
C'est tout l'univers développé par Mark Smith. On rencontre également Cassandra et Tubchef, oui. Qu'on rencontre aussi dans Le Talisman de la Mort. Et il fait référence aussi au dieu Anarkil, qui est traduit justement différemment dans Les Voix du Tigre, dans Le Talisman de la Mort et dans Le peuple maudit. Donc, on a décidé de le traduire avec un K, par exemple. Enfin, ça fait partie des différents choix de traduction qu'on a eus. Donc, on s'est posé la question pour Anarkil, justement. Donc, on a pris Anarkil, K-I-L, à la fin. Mmh. Contrairement à ce qui avait été... Non, je dis une bêtise, c'est l'inverse. Dans l'ancienne version, c'était K-I-L, et on l'a écrit C-H-I-L.
D'accord.
Pour être homogène avec La Voix du Tigre, bien que dans La Voix du Tigre, je crois que suivant les tomes, c'est pas toujours écrit pareil non plus. Hein.
Oui, ça dépend des traducteurs.
Oui, voilà, ça dépend des traducteurs. Oui.
Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler un peu du gameplay des destins qui ne recourent pas aux dés? Or, tu sais, comme aujourd'hui, il y en a pas mal de livres-jeux qui ressortent et qui sortent, et on a beaucoup de livres-jeux, justement, qui emploient pas le dé. Et je voulais savoir pour toi en quoi, en fait, les destins continuent aujourd'hui d'être innovants pour faire jouer sans dés.
Jouer avec les dés, c'est rompre un petit peu la lecture. Puisque voilà, quand il y a des tests à passer ou des combats, on doit poser le livre et lancer les dés. Mmh. Alors ça plaît, mais pas tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent rester immergées dans la lecture, alors que d'autres personnes, au contraire, ça les aide à s'immerger, notamment les enfants. Je crois que ça les aide un peu plus à prendre possession de leur personnage. Mmh. Pour d'autres enfants, pour des adultes, voilà, on peut préférer ne pas lancer les dés et continuer la lecture. Donc dans la série Destin, ce sont que des choix en fait. C'est surtout des choix, des stratégies qui font toute la partie gameplay. Mmh. Et il y a des compétences à choisir au début du livre. On a le choix entre dans une dizaine de compétences. Ça dépend des tomes. Hein, c'est entre 10 et 12. Mmh. On doit choisir 4 compétences. Certaines, alors faut bien choisir en fonction du contexte du livre évidemment, puisque certaines seront moins utilisées que d'autres. Et alors, ce ne sont pas les compétences qui vont faire qu'on va réussir ou pas, mais ça peut aider grandement dans l'aventure.
Oui, et puis on a aussi des codes aussi qui interviennent et qui peuvent aussi déboucher sur alors, les sections qu'on n'aurait pas à droit.
Oui, les codes, c'est une manière de sauvegarder en fait l'historique du personnage, de sauvegarder les rencontres qu'il a pu faire avant.
Moi, c'est un livre en tout cas que je redécouvre avec grand plaisir, Le peuple maudit. Et je le conseille fortement donc à nos auditeurs. Il est au prix en plus que de 14,90 €. Une édition mais de toute beauté avec des illustrations fabuleuses, avec beaucoup de cabochons également. Et franchement, c'est un livre-jeu qui est pas habituel, mais qui a un message aussi qui pourrait se relier un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde. Et c'est vraiment un très 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 intéressant, une belle démarche que de le ressortir. Donc je vais te remercier Laurent donc pour ces quelques explications, ces quelques mises en bouche on va dire donc pour nos auditeurs. Donc j'invite fortement donc à découvrir ce livre et aussi à découvrir les autres ouvrages de ta maison d'édition Alconost.
Merci.
Eh ben merci Laurent et au plaisir d'avoir des nouveautés aussi d'Alconost.
Oui bien sûr, on est en train de travailler sur Forge Divine, un livre de une série de Dave Morris et Jimmy Thompson, oui. Okay. Donc il y aura des nouveautés puis plein d'autres encore. Donc ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Puis à une prochaine alors.
Ça marche. Merci à toi.
Salut.
Allez, au revoir.
Salut.
Hop. Tu vas nous chroniquer le livre là. J'ai quand même une petite question, moi. Oui, du coup, la série Destin, on ne joue pas le même personnage sur tous les tomes.
Non, non, non. Alors, j'ai dit qu'il y avait un rapport entre l'étoile de la destinée et le peuple maudit, mais c'est pas le même personnage. Mmh. Sauf que, en fait, les deux personnages donc proviennent de la même cité, Godorno.
Ok.
Mais on a donc des personnages tout à fait différents, des univers aussi qui sont diamétralement différents. Dans l'hiver des hommes, dont parlait Laurent Centraux, on est dans du post-apocalyptique. Le pirate des sept mers, c'est un peu le pirate des Caraïbes. Après, le peuple maudit, l'étoile de la destinée, c'est un peu renaissance médiévale. Donc, on a vraiment les mille et un destin, c'est les mille et une nuits. On a vraiment une foule d'univers, de personnages très différents et qui permet justement d'apprécier la série sous différents angles.
Finalement, ce qui liait les tomes de la série Destin, c'était plus le gameplay, en fait, si j'ai bien compris.
Alors le gameplay, moi, que je trouve très intéressant. Donc le fait qu'on joue sans dés, ça permet justement d'être encore plus dans la lecture. Et il y a quand même les combinaisons là de compétences dont il parlait au tout début. Et c'est vrai que si t'as pas les bonnes compétences, à certains moments, c'est une impasse. Et tu dis, oh purée. Et donc tu refais un nouveau personnage ou tu prends un des personnages préétablis. Il doit y en avoir 8 dans le peuple maudit. Et tu essayes donc d'avancer avec les meilleures compétences qui soient. Et même des fois, certaines compétences t'autorisent à aller dans certaines itérations que tu n'aurais pas sinon la possibilité de voir. Et destin. C'est destin au pluriel, auditeur. Donc on peut avoir différents destins. Dans le peuple maudit, à un moment donné, j'ai décidé de rejoindre une troupe de brigands et je m'en fichais du peuple des Judins.
Bon, très bien. Donc en fait, ce sont des one-shots un peu qu'on peut prendre. On peut les jouer dans n'importe quel ordre. Si
voilà, dans n'importe quel ordre et tout. Et tu as plusieurs heures de lecture, comme tu peux avoir différents destins. Il y a quand même une rejouabilité aussi derrière qui est intéressante. Donc, rien que dans Le Peuple Maudit, c'est quand même un 420 paragraphes. Et donc, il y a vraiment pour des heures et des heures de lecture. Avec, j'ai noté quand même, tous les 100 paragraphes, tu dois avoir à peu près une dizaine de fins, entre les fins brutales et les bonnes fins. Donc, tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de fins. Il doit y en avoir dans la quelques dizaines. Donc, ça permet vraiment d'avoir envie d'explorer, de toujours aller plus avant pour vraiment... Parce que là, il y a une très bonne fin, mais tu peux avoir aussi une fin alternative. Donc, ne pas accéder à la fin royale, en fait.
Ok.
Donc, il faut persévérer.
T'as peut-être pas tous envie de devenir un roi non plus.
Alors, et sachant qu'il y a deux face à face, il y a le face à face avec le mauvais suzerain, et aussi une bête, Aboréa, une sorte de haine métamorphosée, une horrible bête, justement. Donc, il y a deux face à face.
Je crois que c'est elle que j'ai en couverture de mon...
Oui,
de
elle
mon
fait peur, en plus.
Ouais.
Et comme tu sais, Romain, là, après, dans mon prochain choix musical, donc, c'est un peu une sorte de face à face. C'est Face to Face de Foreigner sur le 101.5. 101.5. Oh.
They say no.
Réunion dans l'imaginaire sur le 100.5, un extrait de leur album Inside Information en 1987, ça s'entend. Hein. Mais j'aime bien ce groupe, je les ai vus au Hellfest il y a quelques années, c'était vraiment bien. J'avais dansé un slow avec un inconnu qui était à côté de moi, je me rappelle de ça. I want to know what love is.
C'est alors, une belle anecdote.
C'était plus le chanteur d'origine, mais il assure aussi. Hein. C'était le chanteur de Hurricane, moi j'écoutais ce groupe de Air Metal aussi, je sais plus comment il s'appelle. Bref, toujours au top ces gars, enfin dans le style rock FM. Eh ben, on va passer à la table ronde. Donc, on va pas l'écouter en entier. Hein. Je vous ai fait un petit montage de tout ce qui s'était raconté. C'était vendredi en 10, derrière nous.
Ah, vendredi 6 octobre, voilà. Exactement. Hein.
Merci, Karine. Donc, on traîne pas. Donc, table ronde animée par Manon Tardy. Donc, sur le thème militantisme
dans les littératures de l'imaginaire.
Ouais, et les deux invités donc Camille
Fanny
Le Boulanger,
Truchon, oui. Éditrice de Ibi Édition, et Camille Le Boulanger, auteur chez Archville.
On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Bienvenue à cette table ronde. Donc, je me présente, je m'appelle Manon Tardy, je suis doctorante en littérature comparée à l'Université de Nantes. À ma gauche, je trouve Fanny Truchon, éditrice des éditions Ibi Édition, qui se spécialise donc dans la littérature young adulte, adulte, qui met en avant des personnages, des héroïnes queer. Et puis Camille Le Boulanger, qui est auteure de romans aux éditions La Talente et aux éditions Argie. Et qui traite plutôt de questions sociales, d'écologie, de post-capitalisme, un peu tout ça. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus votre parcours dont tu es intéressée, tu disais, par les personnages soit racisés, ont handicapés, marginalisés, etc. Et qu'est-ce qui a fait que depuis 10 ans, c'est ça, avec ton association, vous êtes lancée dans cette histoire?
Du coup, pour contextualiser un petit peu, Ibi, effectivement, ça existe depuis 10 ans. On était très très petits. Enfin, moi, je ne suis pas là depuis 10 ans, je suis là depuis 9 ans. Donc, je n'étais pas là à la fondation, mais c'était vraiment tout petit. C'était dans une autre association. Et en fait, on a pu prendre notre indépendance il y a 3 ans. Donc, je vais surtout parler de ces 3 dernières années parce que déjà avant, personne ne nous connaissait. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne nous connaissaient pas non plus, avant ce soir de savoir qu'on était là. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, on a pu en fait construire une identité plus militante, justement. Et Ibi, tout au début, c'était vraiment... il y a 10 ans, la diversité queer en littérature, c'était très peu existant. Et les gens se revendiquaient aussi moins d'identités diverses. Donc en fait, Ibi, ça a commencé très binaire, gay et lesbien, et ouvert à tout, mais on ne recevait que du gay et du lesbien. En termes de représentation, et en fait petit à petit ça s'est élargi au fur et à mesure des années, et c'est là qu'on a vraiment conscientisé le fait que oui, c'est ce qu'on voulait faire, de la diversité queer, et le terme queer s'est imposé petit à petit. Au début on parlait de gay lesbien, après de LGBT, après on a utilisé l'acronyme plus long, et on s'est dit que finalement queer ça avait cet avantage d'être un terme très parapluie. Et en fait d'emblée c'est pareil, on avait cette volonté de représenter pas uniquement du MM en gay, mais plutôt du gay qui allait peut-être plus se rapprocher d'une expérience réaliste d'homme gay, et pareil côté lesbien. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait cet aspect inclusif et réaliste était quelque chose d'important. Donc quand on est devenu indépendant il y a 3 ans, on a vraiment acté, on a mis dans nos statuts qu'on voulait être une maison d'édition engagée dans la représentation de diversité au sens large, même si donc les personnages principaux sont forcément queer. Mais on va valoriser des représentations qui sont aussi plus diverses. Donc effectivement, ce que tu citais, on a de plus en plus de représentations, par exemple, de personnages racisés, beaucoup de handicaps, on a encore très peu, par exemple, de handicaps physiques. On voit vraiment que au sein de la diversité, on va avoir toujours des choses qui restent, même chez nous, alors qu'on est ouvert à ça, très inexistantes. Donc finalement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, visibiliser ce qu'on voit le moins et... continuer en fait dans cet objectif à ne pas aller sur ce qui est commercial, mais plutôt ce qui est, on va dire, anti-commercial, tristement. Donc ce qui a besoin d'être représenté et qui existe trop peu.
Par contre, je vais rebondir sur ton côté anti-commercial. Donc comment vous faites pour perpétuer votre maison d'édition? Est-ce que ça fonctionne dans le sens où est-ce que vous vous y retrouvez dans vos lectorats, dans vos ventes et dans
dans votre diffuseur, distributeur, dans la librairie, etc.
Alors, déjà, librairie, non. Nous, on est distribué, donc on peut être commandé en librairie, mais on n'a pas de diffuseur parce que justement, on serait à perte, parce que s'il y a des retours, on ne pourra pas les assumer, je pense. Donc, nous, on est commandable, on essaie d'avoir de la présence en salon de plus en plus, mais effectivement, on ne nous voit pas en librairie. Et techniquement, même si on arrive à avoir une présence en librairie, on gagne tellement peu d'argent dessus que parfois, on est même à perte parce qu'on veut rester sur des prix assez accessibles. Donc, on a un lectorat qui est de plus en plus fidèle. En général, les gens qui nous connaissent reviennent acheter le reste du catalogue. Donc, on voit qu'il y a un besoin et une envie de voir exister ce type de littérature chez les gens qui nous connaissent. Mais effectivement, la problématique, c'est de se faire connaître. Et ça, c'est compliqué. Et on arrive en fait à vivre uniquement parce qu'on est une association. Donc, on est tous bénévoles dans l'équipe, même si on est plusieurs professionnels du livre. Donc, c'est ça en parallèle de notre travail d'éditoriste, graphiste, etc. Mais effectivement, si on devenait une maison d'édition commerciale, honnêtement, je ne pense pas qu'on pourrait survivre. Parce que la diffusion nous prendrait trop l'argent qu'on a. Et donc, on vend bien en salon, par exemple, quand on compare à d'autres éditeurs copains qui font de la SFFF plus généraliste. Quand on compare nos stats, on s'en sort bien au salon. Donc, il y a une demande. Mais le problème, c'est de toucher le public qui ne nous rencontre pas directement. Et ça, pour l'instant, on a un petit peu de mal.
Il se trouve que je suis publié majoritairement dans des maisons d'édition de SF, sous des gens qui viennent travailler, etc. Maintenant, je ne suis pas du tout pour le coup méditant de ça, comme des amis à moi peuvent l'être, mais ça veut dire soutenir une littérature de SF, etc. Je ne sais pas s'il faut. Je suis partagé parce que d'un côté, je pense qu'il y a une prime à la radicalité dans ce genre de truc, et je pense que. Ce dont tu parlais sur le fait que vous marchez bien en salon, par exemple, je pense que ça tient un petit peu de cet ordre. Mais en même temps, moi je vais pas écrire en me disant oui, il faut absolument que je rentre dans ce genre-là, comme ça. Encore une fois, histoire, thème, propos, le livre. Oui, ça va être plus facile de parler, d'agriculture intensive et de destruction des sols, en passant par le récit post-apocalyptique comme de Malboire, en métaphorisant, etc. C'est vrai que je fais partie de ce milieu-là, dans le sens où ma manière d'accrocher au réel et de mettre le réel en littérature passe souvent par ce genre de métaphorisation.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Et pour revenir sur les salons, c'est vrai que nous, on le voit, les gens viennent nous voir parce que c'est queer en salon, en fait. Mais on a fait le choix que ça soit pas explicite sur la couverture, forcément. Voilà. Pour les romans, ça peut l'être, mais c'est pas ce qu'on a le plus. Là, par exemple, celle qu'on voit, rien ne dit que c'est un texte avec un personnage queer si on regarde juste la première de couverture. Et d'ailleurs, si on regarde la quatrième, c'est pas spécifiquement le cas non plus. Donc, on a fait le choix de pas forcément le mettre particulièrement en avant sur les couvertures parce que c'était pas le but de justement cloisonner. On le fait plus dans notre signalétique sur le site aussi, donc en fait dans notre communication là par contre on l'assume beaucoup et le but du jeu c'est plus là que les gens nous voient comme ça parce qu'on voit que ça fait venir le public aussi et que comme on n'est pas identifié tout court, pas juste pas identifié comme queer, enfin les gens ne nous connaissent pas, ils vont pas forcément venir nous voir en fait en salon ou même en librairie s'ils savent pas ce qu'on fait et que ça peut leur parler. Je sais qu'on a, nous on est souvent en salon avec un autre éditeur qui fait notamment d'un recueil SFFF qui est pareil, profil associatif, et en général on vend beaucoup plus et on s'est vraiment rendu compte que ce qui fait que les gens viennent beaucoup plus vers nous, c'est qu'on a un drapeau queer affiché et qu'ils viennent voir en disant waouh c'est queer, et ensuite ils regardent les livres et ils voient ce qui leur parle, et ces gens je pense ne passeraient pas forcément, enfin ne regarderaient pas parce qu'on n'est pas une maison d'édition qu'ils connaissent sinon. Et vraiment, c'est quelque chose en salon qui est très très marquant parce qu'on a souvent, enfin, j'ai même déjà des gens qui m'ont dit ah, j'ai vu le drapeau, du coup je suis venue. Et donc, en termes de signalétique, je pense que nous c'est important. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à les amener, c'est dommage. Mais on a normalement des petits. On a seulement en salon les drapeaux des représentations des personnages principaux dans les livres en fait, en termes de signalétique. Et on met une petite légende parce que sinon les gens vont s'y perdre et c'est pas le but. Et ça marche très bien aussi parce que ça questionne. En général, on a des retours très positifs quand même. Même les gens qui ne sont pas spécialement concernés, ça les intéresse. Ils vont peut-être pas s'en rappeler, mais en tout cas, on n'a pratiquement jamais de retours négatifs, ce qui est plutôt chouette. En salon SFFF, du moins. Et en fait, on est vraiment sur cette optique de quand on est présent, on essaie de le mettre en avant. Mais en soi, on veut que les livres puissent aussi vivre leur vie de leur côté. Donc techniquement, quelqu'un qui tombera dessus sur une librairie en ligne ou même dans une librairie, parce qu'on en a quand même quelques-unes qui nous proposent, va pas forcément savoir que c'est du queer et va plutôt être attiré par la couverture et le résumé. Donc on essaie en fait d'être un peu sur les deux aspects pour que ça soit pas non plus... Enfin, nous, on n'est pas dans une optique de littérature queer uniquement pour les personnes queer, c'est pas le but du jeu. C'est vraiment de la littérature... je dis littérature queer, mais c'est pas un terme que j'affectionne tellement parce que ça ferait comme si c'était un genre, alors que non, donc de la littérature avec des personnages queer pour tout le monde, en fait. Là, t'as précisé, ça marche en salon SFFF. Donc, ça va revenir à la question de cette table ronde, tout simplement. Si les littératures imaginaires sont un acte militant, est-ce que ça sous-entend que la littérature blanche ne permet pas cet acte militant?
Bon, Utopia, c'est un bouquin que j'ai écrit, mon dernier roman là, qui est sorti en passé, et... parce que le mot poli pour les conversions, c'est éco-socialiste. Le vrai mot, c'est franchement communiste. Je me suis dit, ok, d'accord, attends, comment je peux faire pour arriver à mettre en fiction ce truc-là? Parce que je voulais travailler plusieurs idées, je voulais travailler la question de l'abolition de la propriété privée. Je voulais travailler aussi le salaire à vie tel que défini par théorisé par Bernard Friot, sociologue et économiste, et donc je voulais travailler ça, mais je me suis dit, par où je le prends, quoi? Comment je fais pour arriver à mettre ça en fiction et pour le tester? Et donc, du coup, j'ai eu un long moment de recherche, j'ai plein de trucs. À un moment, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc avec un énorme vaisseau spatial à travers le truc comme ça, et ce serait rempli d'anthropologues qui iraient de planète en planète. Bon, je venais de réinventer sillage dans ma tête, c'est formidable. J'ai écrit 3 pages, j'étais à chier, j'étais par terre. Bon, et comme quoi, finalement, la clé, en fait, ça a été le mélodrame. Et en fait, j'ai ce qui était aussi un genre de petit défi, parce que comme je vous disais, on disait oui, on ne s'attache pas au personnage, je me suis dit ok, c'est parti, je vais les faire chialer, c'est un genre de genre, tu peux faire caler, toi, je t'ai vexé. Et donc du coup, j'appelle mon éditeur, je lui dis voilà, je sais ce que je veux faire, je veux faire un mélange entre tout ce que le ciel permet et les dépossédés d'Ursula Le Guin, quoi, je veux faire un mélodrame communiste. Il dit Camille, tu sais qu'il faut qu'il se vende. Et comme quoi, je pense qu'on a vraiment plus à gagner à s'enrichir mutuellement des récits des uns des autres. Je trouve que là, il y a des bouquins de science-fiction incroyables qui sortent dans des collections de littérature blanche. J'ai lu la semaine passée un truc, comment ça s'appelle ? Je ne suis pas né pour mourir, de Françoise Dogon. Françoise Dogon, c'est une militante féministe. Ouais, des années 70. Ouais, elle a écrit pas mal de SF, et donc il y a un de ses bouquins qui vient de ressortir, qui est l'histoire, en gros, d'une Amazone immortelle qui traverse l'histoire, et ça sort chez Poum, en poche. Enfin, genre, tu saurais jamais que c'est de la SF, et c'est pas très grave, en fait. Après, c'est des questions de rayon, et c'est des questions de. Ouais, il y a quand même une vieille garde un peu dans la SF qui est en mode genre, oui, il y en a marre! Voilà, c'est genre ces maisons d'édition de littérature générale qui viennent nous voler notre SF. Voilà, il faut du bon vieux gatekeeping, comme on dit. Et c'est un peu fascinant, quoi, parce qu'en fait, en vrai, bah ouais. Et après, effectivement, il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux commerciaux. Effectivement, c'est vrai que là, en ce moment, depuis quelques années, les grands groupes éditoriaux, après, bah, ils ont fait le travail sur le polar, là, ils commencent à s'y mettre. Ils disent, ah, la SF, ouf, et donc du coup, les RST achètent, il y a quelques années, Albin Michel, etc. Donc, ils commencent à avoir des collections dédiées à très large diffusion, face auquel, en tant que dans l'édition indépendante, bah, en fait, on peut rien. De toute façon, on est battu de toute façon. Pour vous donner un exemple, dans l'édition indépendante de SF, un succès, quoi, quelque chose de bien, c'est 2000 exemplaires, quoi. Donc c'est pour donner une idée de ce qu'il est possible de diffuser. Et tout genre confondu, le chiffre moyen de vente d'un roman en France actuellement, moyen, pas médian, parce que du coup c'est une concentration vers les plus hauts, comme dans toute moyenne, en fait c'est 600 exemplaires, je crois. Donc en fait, oui, c'est de la militance, mais c'est vrai que c'est difficile de le faire à large diffusion, quoi. On est vraiment... on est petit, quoi. Voilà.
lecture, est-ce que le fait de devoir expliquer, de devoir prévenir, c'est aussi un aveu en fait que le combat il n'est pas gagné? Réponse courte, oui, malheureusement. Je pense qu'on revient un peu à ce que tu disais. Hein. Aujourd'hui, bah, les personnes minorisées, elles le sont encore. Sinon, on n'aurait plus besoin d'exister, IBI, et de manière générale, toutes les maisons d'édition qui mettent en valeur comme ça des personnes plutôt discriminées, pas discriminées. Donc effectivement, on a quand même, je le disais là en salon, on a globalement on a quasi que des retours très positifs, ou alors des gens qui nous ignorent, ce qui nous va aussi. Mais on a quand même encore des gens qui viennent nous voir juste pour dire des trucs horriblement queerphobes, pour, je sais pas, espérer qu'on s'énerve. Donc à qui je réponds avec un grand sourire très hypocrite, bien sûr, parce que le but du jeu, c'est pas de rentrer dans leur jeu, mais je dirais, à partir du moment où des gens ressentent ce besoin, qu'on voit d'autant plus sur les réseaux sociaux, parce que là, ils sont pas en direct, mais ils le font en direct, franchement, chapeau, c'est plus courageux. Dès lors qu'il y a des gens qui ont ce besoin de nous dire qu'il faut pas que vous existiez, bah, ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de prouver qu'on existe, on a besoin de l'expliquer pour que les gens n'aient pas peur, parce que, enfin, j'ai l'impression qu'une grosse partie du rejet, ça vient de cette espèce de peur de la différence. Et du coup, nous, notre but, c'est de leur montrer que, bah, non, c'est ça, c'est un petit point ajouté dans un mot, c'est pas une grosse différence, ça va pas changer leur vie. Et par contre, ça va aider d'autres personnes à se sentir mieux. Donc voilà, on essaie vraiment d'être sur cette normalisation du, bah, ça change pas grand chose. Dans nos livres, le personnage en soi, il vit une aventure. On sait juste qu'il est queer, mais ça va pas changer l'expérience de lecture en termes de. Ben, de plaisir pris dans l'aventure qu'on lit, etc. Donc on essaie beaucoup de verbaliser ça parce que ben, on voit bien que sinon les gens n'osent pas toujours le tenter. Et souvent, on a déjà eu par exemple des chroniqueuses qui nous avaient dit ça, genre j'ai jamais lu de livre queer, je sais pas si je vais être à l'aise. Et en fait, leur retour après, c'était oh oui, en fait, ça n'a rien changé. Mais il y a cette espèce d'anxiété et aussi là, c'était parce qu'elle avait peur de mal le traiter en fait, de pas pouvoir faire une chronique comme elle l'aurait fait sur un livre pas queer. Et du coup, on voit vraiment cette méconnaissance simplement qui génère du coup le fait de pas forcément oser tenter le livre. Donc je pense que c'est ça, faire tout ce contexte, faire, bah, par exemple, je parlais de la petite légende avec les drapeaux. Les gens, quand ils voient les gens, ils sont rassurés, donc ils viennent plus regarder. Alors que s'ils voient juste les drapeaux, limite, ça va peut-être leur faire, leur poser question, mais ils osent pas toujours demander ce que c'est. Et du coup, le mettre vraiment à leur disposition. Textuellement, se rendre disponible pour leur expliquer, bah, ça aide vraiment et souvent, bah, du coup, ils osent davantage acheter le livre, au moins le parcourir, et rien que ça, c'est déjà pas mal.
Et en fait, la littérature de l'imaginaire, normalement, c'est d'aborder l'altérité. C'est ce qu'on apprend dans les textes de collège, quand on voit la science-fiction anticipation et écrit, on aborde l'altérité, c'est l'autre, et ça permet de mieux l'accepter. Et donc, effectivement, en faire un acte militant de passer par l'imaginaire, c'est aussi faire ça.
Ouais, et juste rapidement sur l'altérité, et je trouve ça un peu aussi sur les questions d'écriture, il y a un concept auquel je tiens beaucoup en théorie littéraire, qui est celui de la défamiliarisation. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait d'études de lettres, c'est un truc de Russe du XXe siècle, en gros, qui ont théorisé le fait que la qualité littéraire d'un énoncé, en fait, ce qui faisait qu'un énoncé était littéraire, c'était la défamiliarisation, donc l'écart à l'usage courant. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, justement, d'avoir ces moments où, un livre nous défamiliarise, on dit, bah, tiens, Léa, ah bon, ok, d'accord, tout de suite, je suis un peu ailleurs. Et en fait, ça nous permet aussi de travailler le fond et la forme ensemble. Ah oui, on peut pas écrire une histoire qui se passe sur une planète lointaine avec des êtres vivants gazeux non genrés et qui se reproduisent par les cellules qui se divisent, je sais pas comment ça s'appelle, et bien métempsychose, mais c'est pas ça. Qui se reproduisent par métempsychose, voilà. De la même manière qu'on écrirait, une chronique de la vie à Angers, etc. Ça n'aurait pas de sens. Donc, l'altérité dans ce qui est raconté, mais aussi dans la manière dont on le raconte, quoi.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On peut passer aux questions, sinon.
J'avais une question, notamment parce que du coup, vous faites beaucoup de représentations, c'est hyper cool. Et je voulais savoir aussi votre avis sur les trigger warnings, ces listes qu'on met maintenant pour analyser ce qu'il y a dans le texte qui peuvent être choquants, etc., qui préparent un peu le lecteur et qui notamment du coup prennent en compte aussi des lecteurs qui peuvent être plus fragiles que des textes, voilà, si vous trouvez ça cool, si ça vous intéresse.
Sur ça, du coup, alors nous on le fait, tout simplement, donc par principe je pense qu'on est plutôt pour. Nous on trouve ça très très important, on s'adresse quand même en partie à des publics qui sont fragiles, en effet, hein, qui ont souvent des traumatismes, etc. Parce que bah, souvent c'est un public en tout cas qui vient beaucoup vers nos livres parmi notre public. Et on trouve ça important de mettre ça en place. On a parfois des critiques sur ça, pour le coup c'est pas quelque chose qui plaît. Et la réponse, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure concernant les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Bah, on propose à ces personnes de ne pas lire cette page, du coup, et de la laisser exister pour les gens qui en ont besoin. Et on a beaucoup de retours positifs de gens, du coup, sur ça. Et nous, ce qu'on a fait, alors on a beaucoup réfléchi, ça a un peu évolué. Donc il y a certaines éditions qu'on va rééditer, mais c'était nos débuts, on ne savait pas trop sous quelle forme les mettre. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de les mettre sous forme principaux, ponctuels et simples mentions. Parce qu'on ben, s'est rendu compte qu'il y a parfois des gens, le simple fait que ça soit mentionné, ça peut être un trigger. Donc ça peut les mettre en situation d'anxiété ou de crise ou autre. Et donc voilà, ça permet de graduer. Donc, les gens peuvent voir comme ça si c'est, si c'est principal, parfois ils ne vont pas le tenter. Si c'est simplement une mention, ils le savent, donc c'est bon. Donc voilà, nous on fait ça, puis on met aussi quand ça spoil, parce que c'est un peu le problème des contenus sensibles, parfois ça va divulguer du coup l'intrigue. Donc nous dans ce cas on les met quand même, mais on les met à l'envers pour qu'ils soient moins accessibles, et sur le site on les met sous spoiler, puisqu'on les met aussi, nous on met tout ça sur notre site internet également pour que les gens puissent y avoir accès sans avoir le livre papier. Mais nous on trouve que c'est quelque chose d'important, et en tout cas que pour les gens à qui ça ne parle pas, bah, il suffit de passer une page, donc c'est pas censé déranger grand monde.
Oui, il a imprimé, tu sais, avec les petits points pour arracher proprement. Alors, réponse simple, j'ai pas d'avis vraiment. Pourquoi pas ? Là, je sais que je suis en train de terminer le boulot sur une traduction d'un bouquin. Qui pour le coup effectivement est genre turbo gaucho, turbo queer, donc du coup je me suis dit ouais, quand même des trucs qui sont hard et qui sont on va dire c'est un registre c'est sous forme de témoignage un registre de fictionnalisation quand même assez assez intime quoi, donc un petit mot au début attention c'est chaud quoi. Voilà, je pense pas que ça empêche quiconque de lire le livre, mais voilà, faites gaffe. Et pour moi, en fait, c'est un peu comme tu vas en librairie, tu vas voir ton libraire, il te connaît, et tu te dis alors ça c'est pas mal, mais alors, attention, parce que ça c'est genre violent de violent, quoi. Voilà, tu te dis ah oui, peut-être, bon, tu sais quoi, j'ai pas envie de ça en ce moment, voilà, hop, j'ai rien, et encore une fois, je trouve que c'est des polémiques. Je pense que peut-être, si je devais dire un truc, c'est que. Peut-être le systématiser, alors je fais des trucs avec des pictogrammes et tout, machin, c'est peut-être un petit peu, entre guillemets, excessif, mais pour moi, mais c'est sûr, qu'est-ce que ça fait de mal, rien, donc voilà
quoi. Bon, je vous remercie à tous pour votre présence ici et que je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.
Voilà pour cette table ronde animée par Manon Tardy. Sébastien, tu avais un truc à annoncer.
Oui, donc pour parler encore d'Alconost, en ce moment, donc les dimanches, vers 14h13, sur la chaîne Twitch de Ems66, un ami, donc on joue Kin à Pan et le Monde Perdu, et on joue avec le personnage de Wendy. C'est très drôle avec Ems. Il fait aussi la carte donc de l'histoire.
Et nous, on se retrouve dans deux semaines dans Imaginaire. On parlera des Utopiales hein, qui auront lieu du 1er au 5 novembre à Nantes. À plus.
Bye bye.
101.5 FM. Radio-G.fr.